Pour frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous encore ce matin. Je crois très bien que nous vous portez très bien. Et justement, c'est ce que Dieu veut. Hein? Dieu veut que nous nous portions bien. C'est ça, non? Et on a vu même dans la Bible, hein? Il y a l'apôtre Jean, qu'on a cité ce matin plusieurs fois. L'apôtre Jean a écrit à son bien-aimé frère Gaius, ce frère qui marche très bien dans la vérité. Il marche bien dans l'obéissance. Et il dit, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Comme prospère l'état de ton âme. Oui, il est vrai. Si tu marches dans la vérité, si tu marches dans l'obéissance au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, il est vrai que ton âme prospérera à tous égards. Et c'est tout ce que Dieu veut de nous, que nous marchions avec une bonne volonté de le faire, que nous marchions avec le Seigneur comme il le faut. Alors ce matin, je voudrais te demander, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père miséricordieux, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te remercions ce matin pour ton amour pour nous. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de ce que, oui, nous sommes à toi et nous réjouissons en tout temps. Merci Seigneur pour ton esprit que tu as mis en nous. Merci de ce que nous pouvons marcher selon cet esprit. Et nous te prions de nous aider pour que nous puissions vraiment faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, pour que ta parole qui purifie, ta parole qui vivifie, que cette parole nous vivifie ce matin. Sois béni, Seigneur, sois adoré. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer justement dans notre étude ou bien une série de messages que j'avais annoncé la fois dernière concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et nous allons essayer de terminer si possible le thème que j'avais commencé. Jésus revient bientôt. Oui. Jésus revient bientôt. Nous allons lire dans Jean, l'apôtre Jean est à l'honneur ce matin, Jean 14, les trois premiers versets. Vous connaissez bien ce verset, très beau verset. Jean 14, 1 à 3. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle parole merveilleuse! Jésus a donc promis à ses disciples, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et donc, par ces mots, par ces paroles, on voit que Jésus déjà faisait allusion à son retour. ce qu'on appelle la seconde venue à la fin de ce monde. Vous avez remarqué dans ce texte que Jésus n'a pas précisé ce que ressemble la maison de son Père. Il n'a rien dit concernant la nature de cette maison. Il a simplement dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour y habiter. Beaucoup de demeures. C'est pourquoi je vous dis, je vais vous préparer une place. Oui. Qu'est-ce que c'est que la maison du Père? La maison du Père, justement, c'est le ciel. Oui, c'est le ciel, la maison du Père. Et donc, les nombreuses demeures, les lieux de repos de ceux-là qui croient en Dieu, voilà la maison du Père. Et au ciel, donc, il y a de la place pour tous les croyants, tous les vrais croyants. Et donc, les disciples ne vont plus faire de soucis s'ils croient vraiment en Jésus-Christ. Ils étaient assurés à aller dans cette maison-là, la maison du Père. Et si nous, nous sommes en Christ, si nous sommes véritablement en Christ, si nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Sauveur et personnel, eh bien, nous n'avons plus besoin de se soucier de rien. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse extraordinaire. Une promesse qui est uniquement réservée à ceux-là qui ont vraiment confessé Jésus-Christ. Par ailleurs, il dit, voici, je viens bientôt. Une chose est certaine, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que c'est Dieu même qui a déjà fixé le moment du retour de son bien-aimé fils Jésus-Christ. Et que lui seul, c'est lui seul qui connaît le jour. C'est lui qui connaît le temps, l'heure. Mais quant à nous, le Seigneur nous dit, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Oui. C'est pour vous dire ce matin que le message du retour de Christ, c'est un message très important pour nous. C'est un message que nous n'arrivons pas à cerner, nous n'arrivons pas, nous ne pensons pas à cela. Oui, mais c'est un message très important que le Seigneur reviendra sur cette terre. Et cela occupe une place prépondérante, une place considérable dans les Écritures. Et quand nous prenons l'Ancien Testament, la moitié au moins de ces très nombreuses prophéties concernant Jésus-Christ se rapportaient uniquement à sa gloire et aussi à son règne. Jésus revient bientôt. Mais pour quelle raison viendra-t-il? Oui, nous en étions là la fois passée. Et la fois passée, nous avons entamé, nous avons commencé par parler de quelques raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus reviendra. Cherchez ceux-là qui ont confié leur vie à Jésus-Christ. Il viendra les chercher. Et la première raison, c'était justement la résurrection et l'enlèvement de ceux qui lui appartenaient, c'est-à-dire les vrais chrétiens. Je parle toujours de vrais chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de faux chrétiens parmi nous. Les vrais chrétiens. Il s'agit des vrais chrétiens. Et donc, le Seigneur viendra. Et ceux-là qui ont vraiment confessé Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel, qui ont décidé vraiment de marcher droit et de faire sa volonté, eh bien, la première raison, c'est pour ces personnes-là. Même mort ou vivant, toutes ces personnes iront à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs, comme la Bible nous l'a dit. Mais la Bible nous dit qu'on entendra un signal, qu'on entendra la voix du chef des anges, un archange, et on entendra aussi le son de la trompette de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ lui-même descendra du ciel. Et premièrement, la Bible nous dit que tous ceux-là qui sont morts en Christ seront ressuscités. Et ensuite, ceux qui seront restés, eh bien, seront emportés ensemble dans les nuées, ensemble justement, pour monter au ciel, monter pour rencontrer le Sauveur. Et ce serait peut-être comme un aimant. Et tout cela, si on place un aimant quelque part, s'il y a des fers quelque part, l'aimant les attire. Et s'il y a des bois, l'aimant ne peut pas les attirer. Donc, le Seigneur Jésus-Christ serait peut-être comme un aimant dans les airs. Et les chrétiens, tous ceux qui sont comme des fers, puisque l'aimant est... Quand on parle de l'aimant, on parle de fer. Quand on parle de l'aimant, on ne peut pas parler de bois. L'aimant ne peut pas attirer un bois. Vrai ou faux? L'aimant ne peut attirer que tout ce qui est fer. Voilà un exemple. Et donc, la première raison concerne justement les chrétiens. Voilà pourquoi le fait d'être né de nouveau, le fait de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur, est si important, très important, recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Cela voudrait dire que les chrétiens ne traverseront pas les dures périodes de tribulation qui aura lieu. Les chrétiens ne traverseront pas ces périodes-là. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, eh bien, ce matin, je te prie de donner ta vie à Jésus-Christ. Même si tu es parmi nous et que tu viens tous les jours, tous les dimanches, et tu n'as pas encore confessé le nom de Jésus, demande aux frères, il y a le pasteur qui est là. Demande comment je vais faire pour recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Parce que l'enlèvement, la résurrection concerne d'abord les chrétiens. La Bible dit que personne ne connaît le jour du retour de Christ. Et nous devons savoir une chose, que tous les chrétiens devraient toujours être prêts. Voilà le mot. Être prêt pour ce jour. Dans Marc chapitre 13, le Seigneur dit quelque chose. Je vais le lire. Marc chapitre 13 à partir de verset 31 et 32. 32 à 36. Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas, vous ne savez quand ce temps viendra. Et le verset 34, il dit, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Voilà l'exemple que Jésus-Christ donne là-bas. Hein. C'est comme un homme qui part en voyage et qui laisse une autorité à ses serviteurs. Et verset 35 dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le serviteur, quand le maître, vous ne savez pas quand le maître, le maître de la maison viendra. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Il dit, ne craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Qu'il ne vous trouve pas endormi à son arrivée soudaine. Donc, c'est une exhortation à la vigilance, une exhortation à être prêt, une exhortation à être éveillé, surtout, puisqu'il dit que personne ne connaît le jour. Et il dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. C'est ça qui est intéressant. Ce que je dis, le Seigneur Jésus disait cela aux disciples. Mais il dit à tous. Donc ça veut dire à nous aussi. À nous aussi. À tous. Et il conclut en disant, veillez. Est-ce que nous veillons? Lorsque je relisais ce passage hier nuit, mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Est-ce que moi-même, est-ce que je veille? Est-ce que je suis prêt? C'est une question qu'on doit se poser. Chaque chrétien doit se poser cette question-là, que est-ce que je suis prêt? Et s'il vient maintenant, est-ce que je suis prêt? C'est une question que nous devons nous poser chaque fois. Quand est-ce que le Seigneur viendra? À quelle heure? Quel jour? La deuxième raison de son retour concerne les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Qu'est-ce que c'est que les noces de l'agneau? Les noces, selon le dictionnaire biblique, c'est l'ensemble des réjouissances qui accompagnent le mariage, tout court. L'ensemble des réjouissances qui accompagnent le mariage. Et donc le festin des noces de l'agneau, c'est une grande célébration glorieuse de tous ceux-là qui sont en Christ. Et la Bible présente cet événement comme une glorieuse réalité. Aussi une très grande fête préparé dans le ciel. Et c'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Ou repas de noces. Et l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous parle de cette grande fête qui rassemblera tous les rachetés dans le ciel et autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce serait une grande proclamation officielle et glorieuse de l'union de Jésus-Christ avec l'épouse qu'est l'Église, toi et moi. Pour bien cerner, pour bien comprendre ce passage, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9, pour mieux comprendre cela. Il est dit, Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Amen. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. éclatant et pur. Car le fainéant, nous dit la Bible, ce sont des œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Amen. Les véritables paroles de Dieu. Dans cette vision, frères et sœurs en Christ, nous voyons l'apôtre Jean qui a vu. Il a vu. Il a entendu des multitudes de célestes, ce sont les anges qui louaient Dieu pour ce festin des noces de l'agneau. Et ce festin de l'agneau, c'est sur le point justement de commencer. Et on comprend bien par là que la notion même du festin des noces à la lumière de la coutume en Israël à l'époque de Jésus-Christ. Et donc, à l'époque de Jésus-Christ, justement, les mariages étaient scellés par trois phases, trois grandes phases. Premièrement, les parents des deux mariés signaient un contrat de mariage. Et les parents ou bien le marié lui-même payaient ce qu'on appelle une dot à la mariée ou peut-être à ses parents. Et donc, la dot marquait le début de la période des fiançailles. Et deuxièmement, le plus souvent, un an après, je parle justement de la coutume en Israël, hein, un an après, le marié accompagné de ses amis masculins, bien sûr, se rendait chez la mariée à minuit. Et craignant une procession, c'est-à-dire un cortège au flambeau, c'est-à-dire tout comme une retraite au flambeau. Et la mariée était déjà informée de ce qui se passerait, hein, et elle se tenait prête, bien sûr, avec ses demoiselles d'honneur. Et tous ensemble, hein, elles rejoignent cette parade et jusqu'à la maison du marié. Et on voit un peu là cette coutume rentre un peu dans le cadre de la parole des dix vierges. Et donc la troisième phase, c'était le repas du mariage lui-même, qui pouvait durer plusieurs jours, comme on le voit justement dans Jean chapitre 2, dans les noces de Cana. Et donc, la vision de Jean dans l'Apocalypse met en scène, hein, ce que nous venons de décrire, selon Apocalypse 19. Mais nous aujourd'hui, je vais vous poser la question comme cela. Nous sommes à quelle étape aujourd'hui, nous? Nous sommes à quelle étape? Nous sommes à la première étape. Nous sommes à la première étape parce que nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Tous les chrétiens, nous qui sommes ici, nous sommes fiancés à Jésus-Christ. C'est la première étape. Mais aujourd'hui, la deuxième étape n'est pas encore arrivée, puisque la deuxième étape, c'est ça qui est l'enlèvement et la résurrection de l'enlèvement. Ce n'est pas encore arrivé. Même aussi la troisième. Mais Jean a déjà vu la première étape, il a vu la deuxième étape et il nous parle de la troisième étape ici. C'est cette troisième étape qui est racontée dans Apocalypse chapitre 19. C'est pour vous dire justement que la première étape s'est accomplie déjà sur la terre. Lorsque chaque personne, chaque individu a mis sa foi personnellement à notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, la première étape est accomplie. Et dans ce cas, la dot a été payée par qui? Par Dieu le Père. Par Dieu le Père. Et cette dot-là, c'est le sang de Christ qui a été versé pour l'épouse. Et donc, Dieu a payé la dot. Si vous comprenez un peu, Dieu a payé la dot pour nous. C'est pour cela que nous sommes fiancés. Si on dit que Dieu est jaloux, voilà, Dieu est jaloux. Parce que nous sommes fiancés à son fils. Amen. C'est ça qu'il faut voir. Que si je suis chrétien, il faut savoir que je suis fiancé à Christ. Et il viendra me chercher. Il va m'enlever. C'est ça qui est très important. On n'est pas chrétien pour rien. Mais non, si c'est pour être chrétien pour rien, mais on va rester dans le monde comme ça. Mais là, nous sommes aujourd'hui. Moi, je souhaite même que le Seigneur Jésus, lorsqu'il va revenir, il revienne un dimanche, à pareille heure comme cela. Et on verra. Hein? À pareille heure, moi, je veux, dimanche. Et je prie souvent pour ça que ça arrive un dimanche. C'est très important. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Frères et sœurs, nous avons reçu quelqu'un. Nous avons quelqu'un qui est notre Père, qui est notre Dieu, qui est notre guide. Et nous devons nous réjouir à chaque instant. Et donc, la deuxième phase, ça symbolise l'enlèvement de l'Église. Et le repas du mariage constitue l'étape finale. Et même les spécialistes de la Bible pensent que ce festin des noces de l'agneau aura lieu au ciel entre l'enlèvement et le retour. Cela voudrait dire que nous, les chrétiens ne vont pas traverser cette période. Au moment où cette période de la tribulation sur cette terre, nous sommes déjà avec le Seigneur. Nous sommes déjà avec le Seigneur. Donc c'est pourquoi ils pensent que le festin des noces, le festin aura lieu entre l'enlèvement et le retour. Voilà. Il y a la période de la tribulation sur la terre, mais nous sommes dans la joie là-bas au ciel avec notre Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque nous réfléchissons un peu à cette union glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ avec Christ, avec son Église, oui, nous devons être dans la joie. Nous devons nous réjouir d'une voix inexprimable. Parce qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. Et ce sera merveilleuse. Ce sera une joie, une glorieuse joie, une glorieuse union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci doit nous amener à réfléchir, afin que lorsque nous sommes dans la joie, ce ne serait pas une joie mondaine. Ce ne serait pas une joie mondaine, mais ce serait une joie dans le Seigneur. La joie dans le Seigneur, c'est une joie merveilleuse. Même si tu es malade, la joie dans le Seigneur. Retenez cela, la joie dans le Seigneur. Enfin, la troisième raison pour laquelle Jésus reviendra sur cette terre concerne le jugement des nations. Et Jésus-Christ revient pour juger le monde. Et quand on parle de jugement, le mot jugement fait toujours peur. Ça fait peur à peut-être, si cela nous concerne, si le jugement me concerne, ça me fait peur. Mais si ça concerne les autres, oui, c'est bien, voilà, lui, il doit être jugé, voilà, il a bien fait, il a mal fait, il doit être jugé. Mais si ça nous concerne, ça ne fait pas très, très bien. Mais le jugement dont parle la Bible ici, c'est la colère de Dieu, la colère de l'agneau Et la colère de Dieu, elle est redoutable. La colère de Dieu, elle est terrifiante. Terrifiante. Et donc, ceux-là, hein, qui sont couverts par le sang de Jésus-Christ, seules ces personnes ne passeront pas par ces périodes de trouble, par cette colère de Dieu. Toutes ces personnes ne verront pas verser la colère de Dieu parce que nous sommes couverts par le sang de Christ. La colère de Dieu. La Bible dit que nous sommes maintenant considérés comme justes. Considérés comme justes. Pourquoi ? Grâce au sang de Christ. Grâce au sang de Christ, nous sommes considérés comme justes. Et ne serons plus, à plus forte raison, passés par ces tribulations, par cette tribulation. Ne passerons pas par la colère de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est la parole de Dieu qui nous fait découvrir la chronologie des choses. Tout ce qui va se passer dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous le fait savoir. À savoir justement la résurrection des rachetés, l'enlèvement de l'Église, les noces de l'agneau, le jugement des nations et le rétablissement du royaume d'Israël. Justement, Israël sera rétabli. Aujourd'hui, on dit que nous, l'Église, c'est l'Église qui a l'honneur. Oui, aujourd'hui, c'est l'Église. Israël est maintenant mis, comment dire, au repos. Mais le jour vient que Israël va être rétabli. Le royaume d'Israël doit être rétabli. Et enfin, le règne de Christ et de ses élus, qui sont les chrétiens d'ailleurs, sur cette terre pendant 1000 ans. Donc c'est la Bible qui nous fait savoir toutes ces choses-là. Et nous devons savoir que la Bible parle aussi de plusieurs jugements. Plusieurs jugements que je vais essayer, en tout cas, il y a plusieurs jugements, mais je vais essayer de l'ai englobé en deux catégories distinctes que je vais rapidement citer. La première catégorie de jugement, c'est que les chrétiens comparaîtront devant le trône de Christ pour être jugés. Je vois pourquoi nous sommes chrétiens et que nous devons être joyeux, nous devons être dans la joie. Chacun de nous rendra compte de lui-même. C'est la Bible qui le dit. Chacun de nous rendra compte de lui-même. Et le Seigneur jugera des décisions de chacun de nous, y compris même les cas de conscience, nos consciences, ce qui est dans nos consciences, dans nos cœurs. La parole de Dieu va les juger. Et ce jugement ne détermine pas notre salut. Notre salut, nous l'avions acquis par la foi. La parole de Dieu dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce. Et ce moment, tous les chrétiens rendront compte de leur vie, rendront compte de leur service. Le service, comment tu as mené ta vie, la vie qu'on t'a donnée, comment tu l'as menée. Et notre position dans le Christ, c'est ce fondement-là. Il y a ce fondement dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 à 15. L'apôtre Paul parle d'un fondement. Et ce fondement, c'est bien, il dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 à 15. Personne. Et il continue de dire, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Parce qu'elle va se faire révéler par au travers le feu. Et si l'œuvre de quelqu'un, sur ce fondement, subsiste, c'est-à-dire que si l'œuvre de quelqu'un résiste au feu, alors il recevra des récompenses. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, eh bien, ce sera la perte des récompenses. C'est là le jugement des chrétiens. Nous pouvons construire sur le fondement avec de l'or, avec l'argent, avec les pierres précieuses, des bonnes œuvres au nom de Christ, de l'obéissance et des fruits que nous aurons portés, bref, de notre vie spirituelle, de notre service, de notre dévouement à l'œuvre du Seigneur, à l'édification de son Église. Et nous pouvons aussi construire sur ce fondement avec le bois, avec le foin, avec le chaume, avec des œuvres mortes, des œuvres frivoles, des œuvres stériles, des œuvres sans valeur spirituelle. C'est le jugement de Christ. Et donc là, c'est de là que nous, chrétiens, nous devons faire beaucoup attention à ce que nous faisons. À ce que nous faisons. Puisque la Bible dit que le jugement commencera où? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, avec les chrétiens. Et donc, si tout ce que tu fais aujourd'hui, si tu le fais avec de l'or, si tu le construis avec de l'or, si tu le fais avec de l'argent, de pierres précieuses, eh bien, toutes ces matières-là passeront par le feu, ils ne seront pas brûlés. Mais, si tu construis toutes ces choses-là avec du bois, le bois avec le feu, ça va rapidement brûler. Hein? Le foin, le chaume, toutes ces choses-là. Et donc, il faudrait savoir comment nous bâtissons, nous, chrétiens, sur ce fondement-là. Comment nous bâtissons ça? C'est là le jugement des chrétiens. Et donc, si toutes ces choses-là sont enseignées dans l'Église, c'est que nous prenions conscience. Nous prenions conscience de la vie que nous avons reçue, de la vie de Jésus que nous avons reçue, que nous devons marcher, nous devons mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ. Nous ne devons pas tirer Jésus-Christ. Non, nous devons l'accompagner. Il y a beaucoup de chrétiens d'ailleurs qui veulent faire leur volonté. Mais non, nous ne devons pas faire notre volonté. Nous devons faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui nous a appelés. Voilà, frères et sœurs en Christ, ce que je voudrais vous dire à travers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui concernent le retour. On ne peut pas tout dire dans une prédication. J'avais dit la fois passée. On ne peut pas tout dire. Mais il y a certains points que nous, chrétiens, nous devons savoir. Et là aussi, les incrédules ont du pain sur la planche. Voilà, ils ont du pain sur la planche puisqu'ils vont être jugés très sévèrement. Hier, on était à l'évangélisation. On a rencontré un monsieur, on lui a donné un traité. Il dit non, moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus-Christ. Mais je dis, mais si tu crois en Dieu, et si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne fais rien. Il dit non, la parole de Dieu, nous on l'a renversée, ce n'est pas de cette manière-là que nous on interprète les choses. J'aime Dieu, mais je n'aime pas Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils disent. Alléluia. Nous devons faire ce qui est de notre part. Nous devons savoir que dans la Bible, il n'y a aucune quantité de bonnes œuvres que nous pouvons faire pour c'est-à-dire cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Quelles bonnes œuvres tu vas faire sans Jésus-Christ? Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, les bonnes œuvres que tu feras, c'est du bluff. Il y a l'Église catholique qui parle du purgatoire. Le purgatoire, ce mot purgatoire, il n'y en a même pas dans la Bible. Le purgatoire, ça veut dire quoi? Pour eux, le purgatoire, c'est un endroit hein, où l'âme du chrétien, hein, celui qui est mort et qui n'a pas pu confesser tous ses péchés, et ils ont dit que voilà, il y a un lieu que, bon, tout, après tout, on fera, c'est-à-dire pour qu'il soit purifié. Donc, c'est de cette manière que l'Église catholique voit cette doctrine. Mais cette doctrine-là ne tient pas. Cette doctrine ne tient pas du tout, puisque la Bible dit, hein, la Bible dit que, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi? Vient le... Donc, il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Ça ne tient pas. Il n'y a pas de purgatoire. Donc, c'est ici. Lorsque tu es là, présent, confesse Jésus dans ta vie et tu auras la vie éternelle. Et toutes nos pensées seront jugées. Mais, il y a quelques questions que je vais nous poser, y compris moi-même, je vais nous poser cette question. À quoi le Seigneur nous trouvera-t-il occupé quand il reviendra? À quoi le Seigneur nous trouvera-t-il quand il reviendra? Serons-nous prêts pour accueillir le retour du Seigneur lorsque celui-ci viendra dans les nuées? À quelle place se tiendrons-nous lorsque le Seigneur fera le tri? Le Seigneur fera le tri. Il fera le tri en mettant les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Quelle sera notre place? Serons-nous de ceux-là à qui le Seigneur dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie beaucoup de choses. Tant de questions pour nous chrétiens. Tant de questions. Et nous devons réfléchir à ces questions-là. Et si nous réfléchissons à cette question-là, Dieu nous donnera le moyen. Dieu va nous donner comment nous allons faire. C'est ça. Quand tu te poses ces questions-là, tu vas te corriger toi-même. Tu n'as plus besoin même de pasteur. Toi-même, tu vas te corriger. C'est ça la vie. Le Seigneur dit, je viens bientôt. Le Seigneur est à la porte maintenant. Et si quelqu'un entend sa voix, s'il ouvre la porte, oui, nous sommes déjà à la dernière heure. Hein? Nous sommes déjà à la dernière heure. Et si vous êtes là encore et que vous n'avez pas encore confié votre vie, c'est comme si vous êtes parmi les chrétiens. Vous n'êtes pas chrétien. Être parmi les chrétiens ne fait pas de quelqu'un de chrétien. Il faudrait que tu confesses Jésus dans ta vie. Nous allons prier le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui voudrait confier sa vie à Jésus, quelqu'un parmi nous n'a pas encore Jésus. Quelqu'un parmi nous a peut-être vu que non, je n'ai pas encore confessé Jésus-Christ dans ma vie. S'il y a quelqu'un parmi nous ce matin, s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui lève seulement son petit doigt, et s'il y a quelqu'un qui a toujours de doutes dans tout ce que nous venons de dire, il y a le pasteur Aldo qui est là. Et si vous voulez peut-être me voir moi aussi, je peux vous éclairer sur certaines choses que j'ai dit pour que tous ensemble mettions notre vie en règle, parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur vient. Et il nous faut mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Je vais juste inviter le pasteur Aldo de venir ici pour prier pour nous, pour cette parole, pour que nous soyons vigilants et nous soyons toujours prêts. Que le Seigneur vous bénisse.